Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de café, le balado de lnh.com. Nicolas Ducharme au micro. Nous sommes le 15 juin, au lendemain, la deuxième conquête de la Coupe Stanley de l'histoire des Hurricanes de Caroline, hier, qui l'ont emporté dans le sixième match contre les 3-0 contre les Golden Knights de Vegas. Célébration, le party, la fête à Vegas, mais c'est la Caroline qui a fêté, bien évidemment. On va parler de ça aujourd'hui à l'émission avec les deux collègues, Jean-François Chaumont et Guillaume Lepage, qui vont être avec nous dans quelques secondes. D'ailleurs, si vous voulez lire ce que les gars, là, justement, étaient sur la glace hier, là, étaient dans la troupe de journalistes sur la glace qui ont parlé avec tous les joueurs des Hurricanes après cette victoire-là qui va avoir été quand même... Là, on a vu les Hurricanes, on a vu deux Hurricanes dans cette saison, là, dans cette série-là. En première partie de série où on jouait pas notre style de jeu, en deuxième partie de série où là, vraiment, on a vu ce que les Hurricanes avaient montré dans tout le reste des séries éliminatoires. Alors, on va parler de ça aujourd'hui à l'émission, mais c'est ça, allez lire leur texte sur lnh.com. Et justement, si vous nous écoutez sur le site de lnh.com, ben sachez, on est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Suivez-nous! Apple, entre autres, Spotify, on est là. Abonnez-vous pour pas rater de balado. On est lundi, balado après séries éliminatoires. Et on va avoir un autre balado qui va être disponible jeudi, un épisode spécial pour aperçu du repêchage qu'on a filmé du côté de Buffalo, donc qui va être disponible aussi pour mettre la table pour le repêchage. Donc, on y va, je les accueille avec moi, Guillaume Lepage. Salut, Guillaume.
Salut, Nick.
Et Jean-François Chaumont. Salut, JF.
Salut, Nick. Salut, Guillaume.
Les gars, j'aime votre décoration en arrière de vous, là, pour ceux qui nous écoutent sur vidéo. On voit que vous êtes dans le même hôtel, mais là, vraiment, c'est le même cadre, le même réveil matin, la même lampe. Vous êtes identiques, là, quand on regarde ça. C'est à l'image de vos séries. T'as envie de vivre dans les hôtels, les gars, un petit peu, là?
Non, un petit peu, mais c'est parce que moi, j'ai fait mon entrée à l'hôtel en premier, puis quand on m'a donné ma chambre, Guillaume aime ça un petit peu me niaiser, on m'a donné le 25e étage, puis juste pour m'agacer, il a demandé est-ce que c'est possible d'être plus haut que JF, puis ils ont donné le 26e étage à Guillaume, mais exactement le même parce numéro de chambre, donc on a un copier-coller, je suis juste un étage plus bas.
Ouais, il était sur le point de me donner la chambre adjacente à celle de JF.
Non,
je vais être un étage au-dessus, fait que c'est parfait, mais non, j'ai remarqué dans ce parcours-là que, tu sais, Jeff Gorton a fait allusion aux médias montréalais comme étant des divas parfois. JF, quelquefois, là, s'est montré insatisfait de la vue qu'il avait, du tapis dans ses chambres d'hôtel, de l'étage où il était, donc... Pas été facile toujours, mais
c'est parce que quand une chambre d'hôtel devient ta maison, puis que ça fait plusieurs années que tu te retrouves dans une chambre d'hôtel, il y a des fois où tu aimes ça, avoir un petit confort. C'était pas princesse comme Jeff Gorton pouvait dire. Je crois pas que Jeff Gorton faisait allusion à JF Chaumont ou Guillaume Lepage avec cette petite ligne-là.
Non.
Mais ça, c'est un autre dossier. On s'éloigne du sujet chaud.
Ouais, et la dernière fois que vous avez été côte à côte, il y en a un pour qui le Wi-Fi ne fonctionnait pas pour enregistrer le balado, puis l'autre qui marchait super bien. Donc, honnêtement, je vous préfère un étage différent. Les deux, les gars, merci d'avoir été là. Vous en avez glissé un mot, là, mais c'est la fin de ce marathon-là pour vous. JF, t'as un petit peu plus d'expérience, mais Guillaume, ça en fait quand même plusieurs. Vous retenez quoi de ce parcours éliminatoire-là, mis à part le fait... pour le résultat, là, mais vraiment, là, vous l'avez vécu comment, ce parcours-là?
Bien, c'est un parcours qui était probablement différent parce que, tout simplement, le Canadien qui fait trois tours, ça, c'est assez rare. Là. La finale du Canadien, ça restait une finale en temps COVID, donc tu peux pas profiter de l'expérience au même niveau. Cette année aussi, premier tour en 7 contre le Lightning, deuxième tour en 7 contre les Sabres, ensuite, en 5 contre le Hurricanes, tu te dis, on va pouvoir respirer un petit peu. C'est une série finale de l'Est qui se finit plus rapidement. Non, la Coupe Stanley s'ouvre plus rapidement également. Donc, disons que ça a été un marathon assez long, intéressant. Une finale aussi imprévisible entre deux bonnes équipes, les Hurricanes de Caroline, les Golden Knights de Vegas. Pas les plus grands marchés de hockey, surtout celui de Raleigh, mais je crois sincèrement que la meilleure équipe a gagné cette finale. Donc, c'est une deuxième coupe pour les Hurricanes, une première en 20 ans. Rod Brind'Amour qui aura gagné comme joueur, maintenant qui gagne comme entraîneur. Ça reste qu'il y a quand même eu plusieurs belles histoires dans cette finale.
Oui. Écoutez, on y va. On va en discuter. On va revenir sur le sixième match. Il y a deux choses qui étaient nécessaires pour une équipe dans cette série-là, en particulier les Hurricanes, pour connaître du succès. Respecter le système de jeu, puis avoir un gardien qui fait le travail. C'était exactement ça, il y a les Hurricanes. On a vu du hockey des Hurricanes avec un Brandon Bossy qui écoute. Je sais pas, tu sais, c'est toi, Guillaume, qui a écrit que j'asais avec Bossy après le match. C'est à un moment donné, on manque de qualificatifs pour décrire à quel point son parcours est complètement incroyable.
Oui, oui. Puis le parcours dans sa carrière en entier, mais son parcours en série, je veux dire, c'est quand il a fait son entrée dans le troisième match, quand Frédéric Anderson en arrachait, ça faisait presque 2 mois qu'il n'avait pas joué. On ne s'attendait pas à de grandes choses, mais la barre était quand même pas si haute compte tenu qu'Anderson connaissait vraiment des moments difficiles. Il est entré là dans le premier match, a perdu en deuxième prolongation, mais quand même 18 arrêts avant de céder sur le rebond de la bande en deuxième prolongation. Puis à partir du match suivant, quand les Hurricanes avaient besoin d'un arrêt, ils l'obtenaient de la part de Bossy. Puis c'est ça, à mon avis, tu parles de hockey des Hurricanes, oui, il y a eu des moments où ça ressemblait vraiment pas à ce qu'on est habitué. Là, il y avait des relâchements défensifs, des erreurs qu'on n'était pas habitué de voir du côté des Hurricanes, mais j'ai l'impression que le simple fait de jouer devant un gardien en confiance, un gardien qui donne confiance, a permis à toute l'équipe de comme resetter puis de se remettre un peu dans la position dans laquelle ils étaient après 3 rondes. Là, ils avaient perdu un seul match. Dès que Bossy a eu son premier départ, ça a été 3 victoires consécutives pour les Hurricanes. Fait que la corrélation est assez facile à faire. Là. Le lien de cause à effet est assez évident. Puis c'est ça, Bossy, tu regardes sa feuille hockey DB. Il a été réclamé en début de saison, le 5 octobre. Il était au ballottage. Les Panthers ont placé au ballottage. Les Hurricanes l'ont réclamé. Jamais repêché. 3 années dans la NCAA. Roulait sa bosse dans la Ligue américaine. Puis était coincé un peu derrière Bobrovsky et Tarasov en Floride. Là, la porte s'est ouverte. 39 matchs cette année. 31 victoires. Tu sais, c'est des chiffres complètement incroyables. Puis honnêtement, ce qui m'a marqué de Brandon Bossy, c'est pas un grand orateur, puis je pense que c'est juste parce qu'il est vraiment humble, puis ben là, lui, son parcours, c'est son parcours, puis il a pas besoin d'en parler plus qu'il faut. Là, tu sais, hier, après le match, ça a duré 2 minutes 30. C'est pas vraiment étendu sur ce qui l'a mené là. Il avait simplement le goût de célébrer avec sa famille, ses proches et tout ça. Donc, c'est un jeune homme qui est très, très humble, puis qui a un parcours phénoménal là, qui l'a mené jusqu'à la Coupe Stanley, jusqu'à un jeu blanc dans le match décisif de la Coupe Stanley, encore plus impressionnant.
Puis, il y avait aussi comme mantra de toujours dire « la prochaine victoire va être la plus importante ». C'est un gardien de 27 ans qui venait de gagner à son premier départ le match numéro 4. Puis tu veux un petit peu d'émotion, tu te dis il va probablement faire un petit bilan de ses dernières saisons, reconnaître qu'il vient de loin, puis non, il restait vraiment les 2 pieds sur terre, puis finalement, bien, la dernière victoire pour lui, mais c'est une conquête de la Coupe Stanley pour un gars qui était même pas dans la Ligue nationale l'an dernier. C'est une très belle histoire. Il n'y a pas de doute, à mes yeux, la série, la finale, a pris un changement radical au moment où il y a un changement devant le filet des Hurricanes. Brandon Bossy, comme Guillaume le disait, a inspiré confiance à ses coéquipiers. Puis je pense hier, dans le 6e match, le premier but aussi de Taylor Hall est une image de cette finale-là, d'un gardien qui est incapable de sortir l'arrêt-clé au bon moment. Oui, c'est un revirement provoqué par Jackson Blake. C'est une belle longue passe de Jacob Slavin qui permet à Taylor Hall de partir, d'obtenir une chance de marquer. Mais c'est un tir quand même du haut de l'enclave qui passe sous la mitaine de Carter Hart. C'est le type d'arrêt qu'en début de match, un gardien doit réussir. Question de donner confiance à son équipe. Puis ça a été un petit peu l'histoire de cette finale. Carter Hart, à part le 6e match où il donne 2 buts, à chacun de ses départs, donne 4 buts. Quand tu es rendu que tu dois marquer 5 buts pour espérer gagner un match en finale de la Coupe Stanley, la montagne devient un petit peu trop grosse à gravir.
Oui, puis la réalité aussi, Hart n'a peut-être pas été un facteur dans ce 6e match-là, mais c'était surtout pas une question stupide de demander si Adonel aurait peut-être dû jouer un match. Hein. J'ai pas aimé la réaction de Jean Tortorella là-dessus quand il s'est fait poser cette question, parce que c'était une excellente question de 1, puis de 2, en face de toi, t'as l'exemple parfait que ça peut être la flamèche que t'as besoin, l'étincelle, excuse-moi, que t'as besoin pour allumer ton équipe, là, de changer de gardien, là.
Ouais, il y a un entraîneur qui s'est entêté, puis l'autre qui a décidé d'y aller d'un changement. Ça a peut-être été un peu plus facilité du côté des Hurricanes. Hier, Brindamo disait que, bon, dans le deuxième match, je pense, Anderson s'est blessé, s'est fait un petit bobo, puis à partir de là, on savait qu'il n'était pas à 100%. Donc, la décision a peut-être été plus facile du côté des Hurricanes parce qu'ils n'avaient pas vraiment le choix. Mais tu regardes du côté des Golden Knights, c'était Adam Hill qui est sur le banc, qui a déjà gagné la Coupe Stanley, qui a connu une saison difficile, on va l'admettre, mais qui peut-être dans une situation où l'autre gardien donne 4 buts par match.
Frédéric Anderson aussi que... avait connu une saison difficile, Anderson.
Oui, oui, non, mais
c'est ça que je veux dire, ça se peut que la série change.
Tu places des athlètes de haut niveau qui l'ont déjà fait dans une situation de haute pression, peut-être que tu vas obtenir un résultat favorable. Tortorella ne l'a pas essayé. Puis je pense que c'est parce que il a pris trop de temps peut-être à faire ce changement-là. Tu es rendu au 5e, 6e match, c'est pas vraiment le temps d'y aller d'un changement de gardien parce que tu joues pour ta vie là, rendu là. Peut-être dans le 3e match, comme les Hurricanes ont fait, c'était le moment parfait en milieu de série. Tu n'as pas grand-chose à perdre ou à gagner, mais vers la fin, peut-être c'est un petit peu plus risqué comme décision. Mais j'ai pas non plus aimé la gestion de John Tortorella, sa façon de répondre, parce que tu te mets dans la peau d'Aden Hill, qui est un champion de la Coupe Stanley à Vegas, de voir l'entraîneur y aller d'un commentaire comme ça, tu sais, qu'est-ce que ça signifie? Là? Tu penses que la question de mettre Adam Hill dans le filet est stupide? Ça veut-tu dire qu'il y a un écart tellement grand entre tes deux gardiens que tu peux pas faire confiance à Adam Hill? Tu sais, ça peut être interprété de différentes façons.
Oui.
Tortorella, je pense qu'il quitte là, après ce parcours-là. Là. C'est comme pas clair. On pense pas qu'il va poursuivre l'aventure, mais il a été... Tortorella était à l'image de Tortorella, c'est-à-dire un entraîneur qui presse le citron à court terme, qui obtient des résultats, mais tu sais, déjà, on voyait peut-être la situation s'effriter un peu aussi dans certains dossiers.
Je comprends que Tortorella, en répondant comme ça, veut prendre la chaleur sur lui. C'est vrai que c'est ça que ça a fait, mais au final... Mm-hmm. Ça aurait pas été une mauvaise décision. Ça aurait pu. Tu sais, son but était probablement de protéger Carter Hart, mais comme tu dis, quel message t'envoies à Adam Hill? Quel message t'envoies? Peut-être qu'il a été le voir après, puis il a dit, écoute, tu sais, mais je pense pas. Parce que là, en même temps, ce que tu vas voir, tu vas dire, écoute, Adam Hill, on a pensé à toi, mais on va garder Carter, mais non, je voulais pas te lancer en dessous d'autobus, alors que t'as absolument rien fait pour te faire lancer en dessous d'autobus. C'est du John Tortorella. Comme tu as dit, c'est du John Tortorella. Puis son entêtement dans cette série-là, peut-être coûter une victoire en quelque part, ou dans la manière de jouer, là, parce qu'il y a un entêtement aussi dans les premiers matchs de la série où on jouait du hockey de rattrapage, on se faisait rattraper et tout ça.
Oui, mais tu sais, il faut comprendre, techniquement, cette décision-là se prend de concert avec Sean Burke, qui est l'entraîneur des gardiens. Mais John Tortorella avait un historique avec Carter Hart. Les deux se connaissent du côté de Philadelphie. Je pense qu'il avait clairement établi que c'était son homme de confiance. C'était avec lui qu'il voulait parier en série. Ça a fonctionné jusqu'au début de la finale. Hart a été, faut dire la vérité, là, a été moyen dans cette finale, même moyen faible. Est-ce que ça lui a coûté la finale de la Coupe Stanley? C'est possible, mais il y a d'autres facteurs aussi. Là, je pense qu'il a... La blessure à William Karlsson dans le... Je suis tellement mêlé dans nos jours, dans le cinquième match. William Karlsson du côté de Raleigh. Quand Sean Walker... Deuxième période du cinquième match, mise en échec de Sean Walker. Ça vient aussi déstabiliser la structure offensive des Golden Knights. Karlsson était le deuxième joueur de centre. Elle jouait quand même très bien en compagnie de Brett Hawden et de Mitch Marner surtout. Et là, pour le sixième match, mais t'as placé Harden au centre. Harden est davantage un ailier. Il y a eu un jeu de domino. Tu perdais en profondeur. Puis à ce moment-là, les Hurricanes avaient trouvé leur rythme, leur air d'aller. C'était une équipe qui avait regagné son identité. Mais puis Guillaume le disait en début de balado, c'est Bossy qui a permis aux Hurricanes de redevenir les Hurricanes. Mais les joueurs aussi ont repris leur confiance. On dirait qu'ils sont retombés dans leurs chaussures, dans leurs pantoufles, étant donné qu'il y avait un gardien qui faisait les arrêts au bon moment.
Oui, puis justement, je reviens sur ce match-là, mais on parlait de faire l'arrêt au bon moment. Là, le 4 contre 4, quand Bossy a résisté devant Harden en milieu de période. Ensuite, a connu une super grosse fin de première période. Ça a donné le ton pour la suite du match. Tout de suite, j'ai vu, on a senti que les Vegas, les épaules ont baissé. T'sais, on a eu une deuxième période qui a vraiment, mais vraiment pas été bonne du côté des Golden Knights. Puis pendant ce temps-là, écoutez, je veux dire, les Hurricanes, là, si tu pouvais donner Conn Smythe à un trio et non pas seulement à un joueur, le trio de Taylor Hall, Logan Stankoven, Jackson Blake l'auraient mérité parce qu'ils ont vraiment été, du début à la fin des séries, peut-être un peu moins contre les Canadiens, là, corrigez-moi, mais c'est pas grave. Là, je veux dire, ça a été court. Ça a tout a été court avec les Hurricanes. Là. Mais ce trio-là, un vieux, excusez-moi pour Taylor Hall, mais un vieux qui revient de loin en Taylor Hall, puis deux jeunes qui ont faim, mais qui sont en pleine naïveté des séries éliminatoires, des longs parcours, puis tout ça, ça a marché à merveille. Là. Vraiment, Rod Brendamo a eu a été chanceux là, sur cette décision-là de les mettre ensemble.
Écoute, on va avoir vu 11 matchs des Hurricanes de la Caroline, 5 contre le CH, 6 contre les Golden Knights, puis il y a au moins 11 fois pendant les matchs où Guillaume ou moi, on se donnait des coups de coude sur la passerelle pour dire « Regarde Stankoven à quel point il est fatigant, regarde Jackson Blake à quel point il est bon pour récupérer des rondelles. » Puis j'ai aimé l'expression de Taylor Hall après le match sur la glace qui disait les deux jeunes sont comme deux chiens avec un os. Là. Ils veulent tellement le garder. C'est fou à quel point ils veulent aller chercher les rondelles. On parle de petits attaquants. Logan Stankoven, Jackson Blake. Ce n'est pas des formats géants, loin de là.
Je viens mais de regarder Jackson Blake. On le met à 5 et 11. J'ai de gros doutes là-dessus là, pour l'avoir.
Non, mais toi, tout le monde a l'air si comparé à toi, Guillaume, c'est une autre affaire.
Non, mais je suis habitué quand même à comparer, mais j'avais l'impression qu'il était plus 5 et 9 que 5 et 11.
C'est jamais clair si le joueur t'arrive au menton ou au nombril dans ton cas, mais c'est jamais plus haut que ça. Là, donc,
Il est un petit peu plus grand que son père, Jason. Jason, je pense que c'était 5 et 9 ou 5 et 8. Hier, là, j'étais... Je parlais justement avec Jackson Blake quand son père fait son entrée sur la glace. C'est un beau moment parce que Jackson s'excuse d'arrêter l'entrevue pour offrir un câlin à son père. Puis après ça, il veut continuer les entrevues. Il essaie de regagner un petit peu ses esprits. Puis la première question, c'était moi qui se retrouvais devant lui. Puis je lui demande, ça représente quoi le câlin que tu viens d'offrir à ton père? Puis il casse d'un coup sec, il se met à pleurer comme quoi ton père aura joué 13 ans dans la Ligue nationale, jamais a réussi à passer le premier tour. Lui, à 22 ans, a déjà joué une finale de l'Est avec les Hurricanes, maintenant une finale remportée contre les Golden Knights, aura une bague de la Coupe Stanley. Donc, l'émotion est à l'état pur. Puis, tu sais, t'en parlais, Nick, mais le trio Taylor Hall, Logan Stankoven, Jackson Blake, en 4 matchs où il y a possibilité d'élimination, on parle de 22 points. 9 points pour Taylor Hall, 3 buts, 6 passes. 7 points pour Blake, 4 buts, 3 passes. 6 points pour Stankoven, 3 buts, 3 passes. C'est un trio qui aura réussi à fermer les livres au bon moment. Puis c'était vraiment un beau mélange de jeunesse, d'expérience, les trois joueurs ensemble. Puis c'était un coup de chapeau aussi à Rod Brendamo qui a eu la vision en milieu de saison de placer Logan Stankoven au centre. Puis il a fait tout un boulot.
Il faut quand même souligner là, Stankoven, il y a quelques mois, là, quand il y a eu la transaction, tout ce qui s'est passé avec Mikko Rantanen, il n'y a pas grand monde qui pensait que les Hurricanes allaient s'en sortir très bien là, avec tout ce qui se passait, là, devoir rééchanger Rantanen quelques mois seulement après ou quelques semaines après l'avoir acquis. Logan Stankoven, on se disait, bon, c'est un bon petit joueur, mais... peut-être pas le gros joueur qui va faire la différence en série. Puis honnêtement, c'est spectaculaire. Là. C'est 11 buts en 19 matchs pour un joueur de son gabarit à 5 pieds 8, 165 livres. Il est tout petit là, dans un vestiaire. C'est quand même impressionnant. Ça me fait penser à Cole Caulfield du côté de Montréal. Mais 11 buts en série alors que le jeu se resserre, alors que le jeu est physique. Il gagnait des batailles contre Rasmus Anderson à qui il concède beaucoup de pouces puis beaucoup de livres. Là. C'était vraiment, vraiment impressionnant à voir. Donc lui, honnêtement, Stahl, pour sa finale, méritait le Conn Smythe, mais je pense que pas loin derrière, Logan Stankoven a dû recevoir quelques votes là, pour le trophée du joueur le plus utile.
Parlons-en de Jordan Stahl, c'est une des belles histoires des dernières années au niveau d'un... d'un vétéran. C'est le plus vieux gagnant de l'histoire du trophée Conn Smythe. C'est un gars qui a connu les bonnes années, mais surtout les années noires des Hurricanes. Lui et Rod Brind'Amour, tu sais, c'est main dans la main pour avoir relancé cette équipe-là, pour l'amener où est-ce qu'elle est rendue. Il aurait aimé ça faire ça avec son frère Eric, là, c'est pas arrivé, mais c'est un gars qui... T'sais, la carapace qui a dû se faire au fil des années en se disant « Coudonc, ça va-tu finir par arriver? Ça va-tu finir par arriver? » Surtout qu'il l'avait vécu, je veux dire, à Pittsburgh, gagner la Coupe Stanley, c'était le modèle à suivre pour tous ces joueurs-là, puis de le voir livrer la marchandise comme ça en finale de la Coupe Stanley, tu peux pas demander mieux, là. Tu peux pas mieux écrire une histoire, là. C'est Hollywood, mais Hollywood en Floride, là. La Caroline, c'est plus proche de la Floride, là, mais c'est...
Ouais, puis de le voir, tu sais, obtenir le trophée Conn Smythe quelques minutes avant de soulever la Coupe Stanley. Tu sais, même le Conn Smythe, tu pouvais ressentir l'émotion, la joie, mais je trouvais qu'il avait hâte de déposer ce trophée-là, question d'aller chercher l'autre trophée plus gros. Puis c'est quand même fou quand tu regardes, strictement en termes de statistiques, Jordan Staal finit au 22e rang des meilleurs marqueurs en série. C'est 12 points, 8 buts, 4 passes, mais il y a une finale extraordinaire. Avec 6 buts, une passe, il a marqué dans 5 matchs d'affilée, ce qui égalait un record de la Ligue nationale, là, avec quand même de vieux joueurs, là. Yvan Cournoyer, Jean Béliveau, Maurice Richard. Puis l'autre, c'était qui? Cyclone Taylor. On faisait une blague que Dave Stubbs avait couvert son année recrue quand il jouait du côté des millionnaires de Vancouver. Mais j'aime beaucoup
non, mais
le choix.
L'époque où ton prénom, ça pouvait être à peu près n'importe quoi, c'était pas nécessaire d'être
non,
le
mais c'était,
vrai prénom.
C'était Fred Cyclone Taylor.
C'est ça. Ton nom de famille, c'était ton travail. Fait que c'était Cyclone le tailleur. C'est ça. Dans le temps, les baptistères, là, puis les passeports, c'était moins rigide.
Ouais. Mais juste pour revenir pour le Conn Smythe, tu sais, au-delà des points, moi, j'aime beaucoup voir Jordan Staal remporter ce trophée. Oui, la finale, ça a été magique pour lui avec ses 6 buts. Tu sais, quand tu votes pour le Conn Smythe, tu dois te dire, c'est peut-être 50% la finale, 50% le reste du parcours. Tu te dis, OK, il n'y a peut-être pas assez de points dans le premier 50%, mais Jordan Staal a toujours joué contre le meilleur trio de l'équipe adverse. Qu'est-ce que Nick Suzuki, Juraj Slafkovský, Cole Caulfield ont fait contre Jordan Staal? Très peu de choses. C'est 56,8% au cercle des mises en jeu comme joueur de centre. Puis l'autre facteur, à mes yeux, indéniable, c'est son impact en infériorité numérique. Staal était souvent de la première vague avec Jordan Martinook. Les Hurricanes terminent les séries à 91,5% en désavantage numérique, terminent la finale à 88,9%. Ça a pesé très fort dans la balance, la qualité du jeu de cette équipe en désavantage numérique pour obtenir un si beau parcours en série.
Oui, puis, tu sais, quand on a eu notre dernier épisode, on a jasé, puis j'avais dit, Marner, c'est un lock. C'est assuré que Marner va gagner.
Je me souviens qu'un vieux t'avait dit « Attends un peu, Nick ».
Ouais, ben écoute, le vieux avait raison visiblement. Entre vieux, vous comprenez, toi, Pistole. Mais ben, j'en ai dit, tu parlais pas de Guillaume. Là. Guillaume est toujours bien le plus jeune ici. Là. Mais ouais. Marner a pas de points dans les deux derniers matchs. C'est la première chose. Puis de deux, Staal, comme tu dis, c'est une game complète. Hein. Puis Staal ouais. a été... Tu sais, il a été... Il était, je veux pas dire incroyable, mais il a été un rock. Vous comprenez ce que je veux dire?
Faut pas oublier non plus que première présence des séries contre les Sénateurs d'Ottawa, Jordan Staal jette les gants contre Brady Tkachuk.
Sa fille a rappelé hier.
Exact. Ça peut paraître naïf, mais j'ai l'impression que le capitaine qui pose ce geste-là, bon, ça n'a pas fonctionné du côté de Tkachuk, là, mais du côté des Hurricanes, le capitaine qui pose ce geste-là en partant les séries, c'est peut-être un message de dire « OK, let's go, on est dans la bataille, puis on y va jusqu'au bout cette année, on ne se fera pas marcher sur les pieds. » Puis,
ça
dans la réaction des joueurs, exact, dans la réaction des joueurs hier, quand il a reçu le trophée Conn Smythe, quand il a pris la Coupe Stanley, tu voyais que c'est un joueur qui est adoré de tout le monde dans ce vestiaire-là. C'est lui qui soude le groupe. Tu sais, on s'est tous ralliés derrière son histoire, derrière les longues années de misère en Caroline. Sébastien Nao aussi, qui est un joueur qui a vécu aussi ces années difficiles-là. Donc, on s'est tous ralliés derrière ces piliers-là de l'équipe. Puis on a réussi à accomplir ce qu'on cherchait depuis très, très longtemps en Caroline.
Ouais, c'est Nick, non, Mitch Marner, c'est un très beau parcours en série. Il y a eu un match incroyable en finale de la Coupe Stanley, le match de fou, victoire de 5-4, où lui marque 3 buts, il obtient une passe. Il finit les séries quoi, avec 29 points. Mais dans les derniers matchs, il y a eu un essoufflement.
Ouais.
Puis c'est probablement pour cette raison que le trophée... Peut-être que si ça se finit en 7, il y a une chance de gagner. Mais avec une victoire en 6, moi, j'étais d'accord, tu dois trouver un gagnant dans le cadre des Hurricanes.
Je suis entièrement d'accord. Puis je vais revenir à ce que tu disais, mais la blessure à Carlson, le fait que tout a été un peu déstabilisé au niveau des trios.
Non, lui, il perdait des repères.
C'est ça y a fait mal. Là. C'est sûr que ça a fait mal. Parce que les Hurricanes sont restés, somme toute, en santé. Je veux dire, il y en avait qui étaient clairement amochés, là, mais on a réussi... Combien de changements de trio on a eu? Là? Pas beaucoup, là, au cours des séries.
J'ai pas souvenir de ça depuis la série contre le Canadien.
Rod Brenamo l'avait dit la veille du 6e match, pour lui, de voir son équipe être aussi en santé. Tu sais, le cliché, c'est que tu as besoin de la chance, tu as besoin d'être en santé, tu as besoin de plusieurs éléments pour gagner une Coupe Stanley. Il y a Nicolas Deslauriers qui aura joué un match chez les attaquants, 4 minutes. Il avait remplacé Nikolai Ehlers au dernier match contre les Sénateurs d'Ottawa au premier tour. Sinon, à l'attaque, là, il n'y a eu aucune blessure. Il y a Mike Riley qui a eu, je pense, 2 ou 3 matchs où il a joué. Mais c'est une équipe qui a été à 98 % du temps en santé du début à la fin des séries.
Bien, ça aide quand tu joues...
Exact.
Si peu de matchs. Là. Je veux dire, quand tu perds 3 matchs en série, ça se peut que tu subisses moins de blessures que.
Oui, mais ça, là-dessus, coup de chapeau aux Hurricanes, il faut quand même que tu réussisses les balayages. Là.
C'est une des performances les plus dominantes des dernières années. Là. En tout cas, là, depuis que les séries éliminatoires, c'est que 4 rondes de 4, là, 4 rondes de 7 plutôt, là, 4 en 7, peu importe. Là. C'est une des années qui a été les plus dominantes pour X, Y raison. Mais c'était une équipe qui était prête pour ça. Là. C'est pas un hasard que les Hurricanes gagnent la Coupe Stanley aujourd'hui. Là. C'est une équipe qui a trimé dur, qui a appris de ses défaites, qui en a mangé de l'adversité, qui a eu honte une couple de fois en finale d'association parce qu'avant d'affronter le Canadien, on était quoi? 1 en 13? Après le premier match contre la défaite contre le Tricolore, là, je pense qu'on était 1 en 14 en finale d'association sur l'équivalent de 4 ans. Mais c'est là que tout de suite, on a réussi à tourner la page. Il y a de quoi qui s'est passé quand on a gagner ce deuxième match contre les Canadiens. Ils sont tout de suite revenus sur la traque qu'on avait pendant les 2 premières rondes. Ça a fait la différence. Je veux revenir sur Bossy parce qu'on en a parlé un peu, mais il arrive quoi à ce gardien-là l'année prochaine? Ça dépend de Frederick Anderson, ça dépend de Piotr Kochetkov. Tu disais 31 en 39, Guillaume, en saison?
Ouais. 31 victoires en 39.
OK, donc 34 en 42 avec les séries. Logiquement, si je sais compter, ouais. Là.
Ouais.
C'est 3 victoires en 3 matchs, c'est ça? Je suis pas fou.
Ouais, ouais, 3 victoires en 3 départs. 3 victoires en 3 départs avec.
3 victoires en 3 départs.
La défaite, c'était pas un départ.
Non, c'est ça, exactement. Bon, tu sais, logiquement, là, ce gars-là, présentement, devrait être en train de chanter la zigazon zinzon avec les Wolves de Chicago dans la Ligue américaine, qui sont eux aussi en finale de la. Eux autres, c'est la Coupe Calder, mais je veux dire, Bossy, son histoire, là, il va se marier en plus. Vous l'avez rencontré, vous avez parlé avec lui, mais là, tu fais quoi? Est-ce que ce gars-là, là, tu le considères comme un gardien numéro 1? C'est un coup de chance? Puis quel message ça envoie aux équipes qui investissent beaucoup d'argent sur des gardiens de voir un gars arriver comme ça puis tout chambouler dans ton équipe? Là?
Ben, on le voit quand même de plus en plus, là, les gardiens qui se développent sur le tard, qui arrivent puis qui sont capables d'avoir un impact. Là, tu sais, ce qui arrivera dans le futur, je ne sais pas. Mais ce qui me fascine avec Brendan Bossy, c'est la mentalité House Money. Là. C'est comme son slogan pour la saison. La saison, il a popularisé ça cette saison, mais lui, depuis qu'il joue dans les rangs universitaires, il utilise cette mentalité-là, c'est-à-dire je parie sur moi-même, puis je suis exactement là où je dois être à chaque étape du parcours. Donc, s'il était dans la Ligue américaine, il n'était pas en train de se dire « je devrais être dans la Ligue nationale, puis là, ça ne marche pas, puis non. » Il était exactement là où il devait être. Puis ça, c'est sa conjointe. Hier, on était 2 journalistes à discuter avec Mary sur la patinoire.
C'est-tu ta photo, là, la jambe levée,
ouais,
puis tout ça?
Ouais,
hey, bravo. Écoute, les deux, vous n'êtes pas des... Je vais dire
des photographes.
Picasso, excusez-moi. Vous n'êtes pas des Bernard Brault, je vais dire de la sorte. Vous n'êtes pas des Bernard Brault de la photo.
On n'a pas l'équipement non plus pour ça. Là.
Non, mais JF, soyons francs, c'est comme Bernard Brault, mais aveugle. Mais cette photo-là, c'est une de tes meilleures, Guillaume.
Ah non, non, c'était une super photo. Puis Mary, très, très éloquente, puis super sympathique. Là, tu sais, des fois, tu vas voir les familles, puis tu as l'impression qu'ils veulent vivre ce moment-là ensemble, puis c'est bien normal. Mais pendant 4-5 minutes, elle a parlé de Brandon, puis elle a dit, tu sais, ils sont ensemble depuis les années à Western Michigan. Elle, c'était une athlète de cross-country, je crois.
Okay.
Ils se sont rencontrés là-bas. Puis elle a dit, il y a vraiment cette mentalité-là depuis le premier jour où je l'ai connu, puis il m'impressionne à chaque étape du parcours, tellement il est capable de rester dans le moment présent, puis de ne pas s'en faire avec. Fait que tu sais, la question que tu poses sur son avenir, lui, je sais pas s'il se la pose, ouais, c'est ça.
C'est ça.
Lui, ça va être la prochaine étape, c'est le mariage probablement, la journée avec la coupe et tout ça, puis après ça, on repart l'entraînement pour la prochaine saison.
Ça va être différent comme ce qui était prévu de mariage, peut-être, quand ils ont commencé à planifier ça l'an passé.
J'ai eu l'impression que Mary avait quand même hâte que le parcours prenne fin, parce qu'elle dit là, le mariage est dans moins de 30 jours, puis je pense pas que Brandon était très, très disponible pour l'aider dans les préparatifs et tout ça, là, fait que je pense qu'il va devoir donner un petit coup de main de ce côté-là.
Imagine, là, c'est pas juste deux, trois tables, faut que tu rajoutes, là, c'est un chapiteau, faut que tu rajoutes au complet, puis c'est soudainement, l'équipe est à inviter au complet, c'est une autre réalité, puis je veux dire, là, je vais pas dire que c'est un salaire de pauvre, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais les bonus de séries éliminatoires vont peut-être aider un petit peu à payer tout ça, parce que c'est pas un gars qui roule sa bosse, tu sais, il roule sa bosse au salaire de la Ligue américaine depuis tellement d'années, ou dans NCAA, puis tout ça, donc c'est vraiment une des belles histoires qu'on va peut-être voir plus, justement, en particulier dans pour les gardiens.
Mais tu sais, c'est une signature qui passe complètement incognito. C'est arrivé en plein cœur des Jeux olympiques, mais le DG des Hurricanes, Eric Toulski, lui a fait signer une prolongation de contrat de 3 ans, 1,9 million par année. Pour lui, là, 1,9 million, c'était plus qu'inespéré, mais s'il avait patienté un peu en ce moment, il pourrait peut-être obtenir plus. Il va pas s'en plaindre, je suis convaincu, parce qu'il vient d'obtenir une stabilité, 3 ans de plus, les Hurricanes. Est-ce qu'il deviendra le gardien numéro un? On attendra. Mais Frédéric Anderson a quand même 35 ans. Piotr Kochetkov est à l'image d'Anderson, blessé plus souvent qu'à son tour. Donc, Bossy se retrouve dans un très, très beau rôle, dans une belle position, à un petit salaire, entre parenthèses, 1,9 pour les 3 prochaines années. Puis ça, il faut quand même, tu sais, c'était de l'audace. Oui, il y avait probablement une 20aine de victoires là, déjà à ce moment-là, au mois de février. Mais les Hurricanes ont eu cette vision, ils ont cru en lui. Tu sais, tantôt, Guillaume a parlé de l'échange de Mikko Rantanen. Mais c'est quand même un DG. Là, oui, le DG qui gagne passe toujours pour un génie. Là. Mais tu as eu l'arrivée de Stankoven. Tu as Taylor Hall qui est arrivé dans la même transaction que Mikko Rantanen. Le choix de premier tour.
Écoute, Jeff, j'ai fait la liste parce que c'était mon prochain sujet que je vais vous parler.
Oui, vas-y, je t'écoute.
Quand Eric Toulski est arrivé en juin 2024, on a été plusieurs à faire... Lui, c'est un gars d'analytique. C'est un génie de Harvard, d'Ivy League. Là. C'est un chimiste. C'est ne cadre absolument pas avec le DG typique, le gars de hockey typique qu'on voit. Depuis son arrivée, je vous fais la liste des gars qui a été cherché. Sean Walker, Eric Robinson, Keandre Miller qui a été cherché dans une transaction, mis sous contrat Nikolai Ehlers, réclame Bossy au balotage, Mark Jankowski contre un choix de 5e ronde, Shane Gottesbeer, William Carrier, on peut ajouter Nicolas Delaurier, puis tout ça, mais tout ce que je... Et là, après ça, on ajoute justement la transaction Rantanen qui aurait pu détruire cette équipe-là. Parce que tu échanges Martin Nekash au Colorado, tu perds un de tes joueurs hyper importants, puis Rantanen s'en va, tu gardes à peu près rien de ça, ça aurait pu faire très mal. Non, on va chercher Logan Stankoven avec 2 choix de première ronde, 1 deuxième, 1 troisième accessoirement. Taylor Hall dans cette transaction-là. Cette coupe cette année-là, je veux dire, oui, c'est Rod Brind'Amour qui est en bédaine, tout musclé, grand Rod, là, le body qui lève la coupe cette année, mais derrière, il aurait peut-être dû y avoir Eric Toulski qui lui aussi, peut-être, ne l'aurait pas levé aussi facilement, mais je veux dire.
Mais il l'a levé, il n'était pas en bédaine. Puis quand il a levé la coupe, t'avais quelques thérapeutes ou soigneurs qui restaient
qui
pas trop
pas
loin. On disait qu'il faut pas qu'il l'échappe. Mais tu sais,
j'imagine quand tu lèves, faut pas que tu lèves trop par en arrière, parce que c'est pas long,
non,
le ballon va t'amener.
On a vu ça dans la KHL.
C'est ça.
Un gardien qui est tombé à la renverse.
Mais tu sais, Nick, ça va peut-être paraître stupide, pour reprendre un mot de John Tortorella, ce que je vais dire, mais sa profession, c'est un chimiste. Lui, tu sais, calculer des choses, trouver une potion magique, là, il s'est assis avec Rod Brind'Amo, puis il a probablement demandé, décris-moi quelle sorte de joueur tu veux. Quels sont les ingrédients de tes joueurs que tu recherches? Puis lui, il est parti avec ça, puis il a été chercher, boucher des petits trous avec des joueurs qui collaient exactement à l'identité, à la formule Rod Brind'Amo. Donc, il a eu, tu sais, il a fait un très, très, très bon travail pour amener cette équipe-là à la terre promise. Tu sais, tantôt, on pouvait rire de Rod Brind'Amo en bédaine, qui a encore la shape d'un joueur
pas,
de hockey extraordinaire.
Je suis en admiration, non. C'est plus le contraire.
Mais tu sais, lui aussi, c'était beau de voir tout l'amour de ses joueurs. Guillaume le remarquait à la fin du match, le Sébastien Nao, avant de sauter sur la glace, il donne un gros câlin à Rod Brind'Amo. Puis tous les joueurs allaient le voir, tu sentais. Évidemment, c'est tout le temps plus facile de faire ça dans la joie, là, mais cette équipe-là a grandi avec Rod Brind'Amo. Ils vont toujours dire que c'est un coach qui est respectueux, exigeant, mais respectueux, qui connaît aussi c'est quoi la réalité d'être un joueur de hockey. Il y a beaucoup de parallèles à faire entre Rod Brind'Amo et Martin Saint-Louis. Je trouve que les deux entraîneurs sont respectés et aimés de leurs joueurs en même temps.
Non, exactement. Disons qu'ils se donnaient moins de câlins quand c'était Scotty Bowman qui gagnait la Coupe Stanley. peu importe où. Mais tu sais, puis c'est niaiseux, mais Rod Brind'Amo, la shape qu'il a, là, veut pas, là, quand tu arrives au gym, puis tu le vois dans le gym, tu es un joueur, là, ça donne l'exemple. Il donne l'exemple de A à Z dans cette organisation-là. Là.
Les joueurs l'ont souligné, ça, c'est, on peut rire de ça, là, l'entraîneur qui est dans le gym, puis tout ça, mais il y a quelques années, je me souviens, à Montréal, Rod Brind'Amo est arrivé avec comme une vingtaine de minutes de retard, il est arrivé en sueur, essoufflé, parce qu'il faisait du stop and go sur la glace à la fin de l'entraînement, mais tu sais, si l'entraîneur le fait, comme joueur, t'es mal placé pour dire, bon, je vais lever la pédale, puis je vais lever le pied, puis je vais prendre ça relax aujourd'hui. Fait que ça, il montre l'exemple, puis c'est un gars qui a gagné, un peu à l'image de t'as parlé de JF, de Saint-Louis, tu sais. Saint-Louis a gagné en 2004 la Coupe Stanley, Rod Brind'Amo 2006. Deux gars qui se tiennent en forme. Martin Saint-Louis fait les marches du Centre Bell après chaque entraînement. Je reviens à l'image du concert auquel les Canadiens sont allés là, à la fin de la saison. Je me souviens plus, le chanteur country au Parc Jean-Drapeau.
Luke Combs.
Mais tu sais, Martin Saint-Louis, bras dessus avec Cole Caulfield pendant le spectacle. Tu vois ce qui s'est passé hier. Tous les gars qui, quand c'est venu le temps de Brind'Amo de lever le trophée, tous les gars étaient là puis attendaient ce moment-là avec impatience. Fait que ça a été un gros ingrédient. Puis l'an dernier, je me souviens, à l'élimination, après le cinquième match contre les Panthers de la Floride en finale de l'Est, Rod Brind'Amo a envoyé des messages assez directs à son DG en disant « On manque, on n'a pas fait suffisamment de transactions, on n'a pas été chercher des joueurs qui nous permettent de gagner en série. » Il le dit peut-être un peu de façon un peu plus camouflée, mais ça voulait dire ça. Il a lancé vraiment Toski sous l'autobus, puis j'ai l'impression qu'il y a peut-être eu une rencontre après ça pour dire « Hey, voilà ce qu'on fait. Faut faire des gros moves pour parvenir à la Coupe Stanley. » Puis c'est ça qui est arrivé dans la dernière année. Puis c'est honnêtement, tu nommes la liste des joueurs, ce sont tous des joueurs qui ont eu un très, très gros impact dans le parcours des Hurricanes cette année. Fait que chapeau à Toski puis à Rod Brind'Amo.
Mais en même temps, tu regardes, à part quoi, Gottesbeer n'était pas là l'année dernière, si je ne me trompe pas, et Keander Miller. Ah, et Nick Ehlers aussi.
C'est Ehlers. Je pense que c'est quand même un gros ingrédient en termes de profondeur là, qui amenait une dimension différente à cette équipe-là, à cette attaque-là.
Et Keander Miller aussi a joué un grand rôle à la ligne bleue.
Ironiquement, Le fait que Rantanen n'a pas voulu rester en Caroline, signer un nouveau contrat qui a été faramineux, ça a permis d'avoir l'espace disponible pour ajouter Ehlers, pour ajouter Keander Miller, qu'on a donné Scott Morrow, puis un choix de première, un choix de deuxième, en tout cas quelque chose comme ça. Veux, veux pas, le fait que Rantanen n'est pas resté va avoir été une bonne chose pour les Hurricanes, parce que on l'a vu en séries éliminatoires, c'est pas nécessairement tes gros canons qui te font gagner, c'est ton équilibre au niveau de ton équipe, ta profondeur, la qualité de ta profondeur. Parce que oui, effectivement, le trio de Sébastien Aho n'a pas été le meilleur dans ces séries-là. C'est Jordan Staal, c'est le trio qu'on a parlé tantôt. Donc, on va avoir été... Puis, autre chose, je veux dire, à une époque où on est présentement, où les gros noms veulent tous aller aux mêmes endroits, là, Vegas, Floride, les coins comme ça, Dallas, dans le cas de Rantanen, et la Caroline, c'est pas un marché que les gens, qu'on a tant le goût d'aller, et on a réussi quand même à créer cette équipe-là, malgré le marché qui est plus petit.
Je pense que les joueurs aiment ça jouer là-bas, tu sais, en parlant à William Carrier, à certains autres gars. C'est une ville plus de plein air, il y a beaucoup de forêts, beaucoup de lacs. Les gars passent du temps à la pêche, à jouer au golf. C'est un climat qui est quand même plaisant aussi si tu es capable de tolérer l'humidité, mais je pense que... Puis tu sais, l'esprit familial, j'ai fait remarquer à GF après le cinquième match, c'est la première fois que je voyais ça dans le vestiaire des Hurricanes, il y a un mur complet où tu as les photos de chaque famille de joueurs. Donc, mettons Jordan Staal avec ses enfants, sa femme, William Carrier, ses enfants, sa femme, un mur complet avec... Fait que tu sais, il y a cet esprit-là aussi, c'est un petit marché, il y a quelque chose de familial là-dedans, les partisans, on le sent, tu sais, c'est les tailgates, les gens se connaissent, ils sont là à longueur d'année, fait que c'est pas...
Le
c'est
DG
pas
se promène dans le tailgate aussi pour aller à la rencontre des partisans.
Bon, c'est vraiment... Tu sais, c'est différent. C'est pas Vegas, mais il y a quelque chose d'unique à ce marché-là que je pense que les joueurs qui finissent par aboutir là apprennent à aimer.
Mais Guillaume, aussi que tu rentres dans le moule de Rod Brennamo. Je pense que Mikko Rantanen s'y plaisait moins dans ce système de jeu-là. Il l'a dit rapidement, comme quoi il ne voulait pas poursuivre l'aventure à long terme. Mais ça, tu as un DG qui était assez vif, qui s'est retourné, qui a fait une bonne transaction. Tu sais, si tu fais une analogie de baseball, là, ils ont visé un grand chelem avec Rantanen, puis finalement, ils auront frappé quatre petits simples pour arriver au même résultat pratiquement. Là. Donc, c'était une approche différente. Tu sais, tu disais, Guillaume, ça, l'esprit de famille...
Je dis ça comme ça, GF, mais quatre simples, ça te fait pas quatre points comme un grand chelem.
Non, d'abord, il visait un circuit. Il visait un circuit en solo avec Rantanen.
Trois simples et un circuit, ouais, c'est ça.
Peu importe. Ils l'ont travaillé différemment pour arriver au même résultat. Mais... Tu sais, Guillaume, j'aime quand tu disais l'esprit de famille. Juste dans la passation de la Coupe Stanley hier soir, le neuvième joueur à obtenir la Coupe, c'est Nicolas Deslauriers qui aura joué un grand total de 4 minutes en série. Quatre présences ou six présences contre les Sénateurs. Jesperi Kotkaniemi l'a reçu également avant Jackson Blake, avant Logan Stankoven, parce qu'il est en Caroline depuis plus longtemps. Mike Riley aussi l'a reçu avant. C'était un clin d'œil pour montrer, ben, même si vous n'avez pas joué, vous faites partie de la grande équipe, vous faites partie de cette famille-là. Je trouvais que c'était quand même une belle image de solidarité de la part des Hurricanes.
Puis je vais ajouter juste une autre chose sur ce que tu disais, Guillaume. Les Hurricanes, c'est la seule équipe professionnelle à Raleigh, hein, si je ne me trompe pas. Donc, c'est l'équipe de la place. Un peu comme quand les Golden Knights sont arrivés à Vegas, que c'était la seule équipe professionnelle. Tout le monde s'est rallié à ça. Ça a changé pas mal depuis ce temps-là, là, mais à Raleigh, c'est encore le cas. T'en as glissé un mot, GF. Parle-moi un peu, Nicolas Deslauriers, puis surtout William Carrier. On parlait de Vegas. Là. William Carrier va avoir gagné la Coupe Stanley des deux côtés. Est-ce que c'est différent pour lui, la deuxième, par rapport à la première? Comment il a vécu ça?
Ben moi, je vais vous parler de Nicolas Deslauriers parce que c'est avec lui que j'ai
jasé après le match. GF, mais les deux, là,
Guillaume était avec William. Nicolas, ce qu'il y a d'intrigant, entre parenthèses, c'est que techniquement, il ne répond pas aux critères pour avoir son nom sur la Coupe Stanley. c'est 41 matchs en saison ou un minimum d'un match en finale. Nicolas a été acquis dans une transaction avec les Flyers, a joué 7 matchs en fin de saison avec les Hurricanes, seulement un match en série. Mais j'ai posé la question, lui, Nicolas Deslauriers disait, écoute, mon agent va s'occuper de ce dossier-là, il va essayer de pousser pour qu'on obtienne une dérogation puis que mon nom apparaisse sur la coupe. Ça le stressait pas trop. Il était dans les sentiments, l'euphorie d'une première conquête à 35 ans. Mais tu sais, son coéquipier, Sean Walker, lui disait, pour moi, il n'y a aucun doute, il faut absolument qu'on trouve une façon d'écrire son nom sur la Coupe Stanley. Puis même Toulski, à qui j'ai posé la question après le match, elle disait là, il dit, j'avais un paquet d'autres dossiers à m'occuper, j'ai pas encore attaqué celui-là. Mais dit Nicolas a eu son rôle à jouer. C'était un bon professionnel. Il encourageait ses coéquipiers. Donc, je suis convaincu qu'on va trouver un arrangement pour graver le nom de Nicolas Deslauriers.
Ouais, tu as droit à une cinquantaine de noms, si je ne me trompe pas.
Cinquantaine de noms total, oui.
C'est ça. C'est... Écoute, on va se croiser les doigts pour lui. Puis William, justement, par William Carrier, Guillaume.
William Carrier, deuxième conquête sur la glace du T-Mobile. Aussi, il a aussi perdu une finale sur cette glace-là. Donc, pour lui, il y a quand même un attachement spécial à Vegas. Puis, tu sais, on a senti tout au long du parcours qu'il était beaucoup plus dans le moment, qu'il profitait du parcours. Puis, il nous le rappelait, tu sais, il disait les premières années. Ça se passe tellement vite que tu arrives en finale, puis là, tu comprends pas trop ce qui se passe, puis tu vis ce que tu as à vivre. Mais il dit là, il voyait probablement ce qui s'en venait, là, puis il profitait vraiment des moments, des étapes de vivre ça en famille. Tu sais, ses enfants, sa femme ont fait le voyage à Montréal pour un match pendant la série, la finale de l'Est. Fait qu'il a profité de tous ces moments-là, puis il dit le sentiment, c'est la même chose. Là. Quand tu lèves la Coupe Stanley, peu importe si tu l'as gagné une fois, la deuxième... C'est la même chose, puis c'est peut-être encore mieux parce que tu as l'impression d'en avoir plus profité, d'avoir plus apprécié tout ce qui t'a mené là. Puis j'ai posé une question aussi sur la présence de ses enfants. Maintenant que son fils Zachary a 4 ans, sa fille Stella 6 ans. La dernière fois, en 2023, il n'était pas très, très vieux, avait pas vraiment conscience de ce qui se passait. Puis j'ai eu l'impression que je suis allé chercher une petite fibre émotive en posant la question sur ses enfants. Il a dit, tu sais, ils m'en ont parlé, ils n'ont pas arrêté de m'en parler de la coupe. Là, il comprenait ce que papa essayait de faire avec les Hurricanes. Puis hier, c'était vraiment beau de voir toute la famille. Les trois frères étaient réunis. Dernière fois, il y avait un des frères, Gabriel, qui était en voyage en Suisse au moment où il a gagné la Coupe cette année. Donc, il n'avait pas pu vivre ces moments-là. Hier, il était là. Donc, toute la famille était réunie. Puis c'était le fun de voir les jeunes enfants jouer avec la Coupe Stanley. J'ai pris une photo qui sont en train de regarder les noms. Puis tu sais, probablement qu'ils essayaient de trouver le nom de papa. Oui, ouais, les photos dans les confettis. Honnêtement, c'est la première fois que je voyais ça. Ce setup-là, pour vrai, ouais. C'est... Les photos sont vraiment magnifiques, des très, très beaux souvenirs. Fait que c'était vraiment bien de voir ça. T'sais, c'est comme l'évolution du joueur, mais l'évolution de la personne aussi. Le papa qui est maintenant avec des jeunes enfants qui peuvent aussi profiter de cette conquête-là, de voir la coupe, qui vont avoir des souvenirs gravés dans leur mémoire à jamais. Donc, c'est vraiment une belle soirée de célébration chez les Carrier aussi.
Les gars, vous avez couvert les trois dernières finales de la Coupe Stanley. Quand vous regardez ce que les Panthers faisaient, leur style de jeu, tout ça, versus les Hurricanes, avez-vous vu des différences? C'est quel... Parce que les Panthers n'étaient pas là cette année, puis c'est peut-être le mur qu'on n'a pas réussi à franchir, qu'on n'a pas eu à franchir chez les Hurricanes, mais avez-vous vu des différences ou encore là, dans les deux cas, on a la formule pour aller gagner la Coupe Stanley? C'est ça la formule?
Ben, je ne sais pas s'il y a une formule précise. Des différences, il y en a. T'sais, les Panthers ont quand même un Barkov, un Matthew Tkachuk qui ont de grandes étoiles entre parenthèses. Mais moi, je trouve que s'il y a un élément qui se ressemble, c'est qu'on parle d'équipe avec beaucoup de profondeur. Les Hurricanes, il y avait un mélange. Ça pouvait frapper sur n'importe quel des trios. Tu avais un quatrième trio aussi qui était efficace. Là, William Carrier, Mark Jankowski, Eric Robinson. Tu avais de la profondeur à la ligne bleue également. Donc, ça prend plusieurs ingrédients pour réussir à gagner la Coupe Stanley. Ça prend aussi des défaites. Ouais. Les Panthers avaient quand même perdu en finale contre les Golden Knights, justement, en 2023. tu l'as dit, Nick, les Hurricanes ont frappé le mur souvent en finale de l'Est. Donc, ils ont fini par se relever. Ils ont appris dans la douleur, dans la défaite. Ça reste un gros cliché de hockey, mais c'est... Martin Saint-Louis le disait aussi, là, ça reste des expériences que tu ne peux pas acheter.
Ouais, la recette est différente. La recette est différente parce que tu sais, les Panthers avaient un style de jeu un peu moins discipliné, peut-être un peu moins pédale au plancher en tout temps. Mais ce qui est similaire, c'est que c'est une équipe, ce sont deux équipes qui avaient des identités claires sur chacun des trios. Tu savais exactement. Puis qu'il y avait aussi des identités peut-être un peu différentes. Là. Un Barkov, un AJ Greer ne jouaient pas de la même façon. Mais on jouait dans le système. Donc, le premier trio, oui, plus de talent, mais jouait d'une façon X. Quatrième trio, moins de talent, plus d'énergie, mais jouait de la façon X. On respectait vraiment l'identité de l'équipe. Ça, je pense que c'est la chose à retenir. Puis, je reviens au Canadien, là, mais Martin Saint-Louis, quand le Canadien est éliminé, a été questionné au sujet de l'identité de l'équipe. Puis, il dit... On l'a en tête, mais on n'est pas encore arrivé exactement à mettre le doigt sur l'identité puis à ce qu'on veut établir de haut en bas de la formation. Fait que je pense que c'est la clé pour les équipes qui aspirent à la Coupe cette année, c'est d'avoir une méthode puis de la respecter là, du début à la fin du parcours mais éliminatoire.
Je trouvais que la réponse de Martin est intéressante parce qu'il voulait garder justement sa philosophie, son identité. Comme Rod Brind'Amour a fait, il y en a qui se sont peut-être dit que c'était de l'entêtement, mais Rod Brind'Amour a une façon de jouer, mais c'est de la façon qu'on a travaillé autour en ajoutant des pièces au casse-tête. Fait que je pense aussi que ça va être la responsabilité de Kent Hughes, Jeff Gorton, d'ajouter quelques morceaux à cette équipe-là. Du CH, je parle, le noyau est en place. Je pense pas que c'est de tout changer non plus de A à Z, loin de là.
Non, pas du tout. C'est juste d'ajouter. Puis justement, tu l'as dit, trouver cette identité-là, mais c'est l'équipe la plus jeune de la Ligue. Là. Les Hurricanes, ils en ont mangé là, des claques. Tu sais, parce que oui, on peut dire qu'on a eu de la difficulté en finale de l'Est avant cette année, mais il reste qu'on a eu de la difficulté avant même d'arriver en finale de l'Est. D'adversité, on a beaucoup appris. Donc, tu sais, le noyau des Canadiens a le temps a quelques années pour apprendre, mais c'est là que tu vois. C'est pas juste le nombre de matchs que les Canadiens ont joué dans les deux premières rondes qui a fait la différence en troisième tour. Là. Il y a plus que ça, il y a beaucoup plus que ça. Mm-hmm. Les gars, un gros merci pour votre travail durant ces séries éliminatoires-là.
Ça fait plaisir.
Merci à vous autres aussi au bureau. C'est pas une équipe de deux personnes, là. C'est une équipe de 8 personnes, si je ne me trompe pas.
C'est juste que...
Quand même déçu de constater que Gab n'a pas trouvé une façon de venir nous retrouver à Vegas parce que ce matin, on serait sûrement encore en train de chercher Gab. Mais bon, c'est peut-être plus sage de savoir que notre petit moustachu reste en place.
j'allais
vous si Phil a regardé la finale avec sa belle-mère ou Phil était assez tranquille?
Le gars, il dompe
le
toutes
showman,
les insides
il se met
du
à
bureau,
sortir
c'est
les,
ça,
les, ouais, exact, toutes les insides du bureau, on va les savoir d'ici les deux prochaines minutes.
Hey, non, il faut que je raccroche parce que moi, je dois quitter ma chambre à midi. Donc.
C'est ça, exactement, mais j'allais dire... Les séries éliminatoires, le marathon est terminé. Par contre, il y en a... C'est pas terminé, hein, cette saison-là. Le repêchage 26-27 juin, vous en allez à Buffalo, les gars. On va s'échanger, on va se croiser sur l'Interstate. Je sais pas c'est quoi le nom d'Interstate. En tout cas, des aériens ou les canaux. Là,
on commençait à s'ennuyer de Buffalo.
De Buffalo.
Puis là, va falloir travailler là, pour convaincre conjoint de venir passer une petite fin de semaine à Buffalo. Ça fait longtemps qu'on les a pas vus. Je pense qu'il faudrait qu'ils fassent leur part aussi.
Absolument.
Venir explorer Buffalo pendant le repêchage.
La rue Chippewa est une des belles rues sur la planète.
Oui. Ça, c'est celle du tramway, hein, c'est ça?
Bon, non, c'est celle de quelques restaurants et établissements de boissons. Il y a Allen Street aussi. Mais celle de tramway, tu sais, le tramway a pratiquement tué cette ville-là. Mais c'est quoi? C'est la main, je pense, la rue du tramway?
Je ne sais plus. Honnêtement, là, j'ai...
Elle est pas loin de Washington Street. On a passé trop de temps là, quand tu finis par connaître les rues de Buffalo. Là, mais...
Je viens de passer une semaine à Buffalo. J'ai pas sorti d'hôtel tellement qu'on a été occupé, moi et Sébastien Deschambault, notre patron.
Au moins, il y a un Tim Hortons dans l'hôtel.
Écoute, j'y ai, pour te dire à quel point j'ai été occupé, là, j'y ai même pas été. Je me suis acheté des bananes puis dans la chambre d'hôtel. Tellement que, non, mais on a été tellement occupé à la séance d'évaluation des espoirs. Là, les gens, vous allez pouvoir... Nos textes sont sur, justement, là, sur lnh.com. Les gens peuvent aller lire les profils d'espoir puis tout ça. Puis, comme je disais en début d'émission, jeudi matin, ça va être disponible, l'aperçu complet, aperçu du repêchage complet, vidéo qu'on a fait ça. On a fait ça avec Jean-François Danfousse, entre autres. Là. On a déjà un épisode là, avec les jeunes de LHGMQ, mais Maddox Dagenais, Liam Lefebvre, Xavier Villeneuve puis Jean-François. Mais là, c'est la suite. On parle de tout ça. Mais vraiment, là, on a été, j'ai pas vu le soleil. S'il y avait du soleil à Buffalo, je pense que je l'ai vu 10 secondes à peu près ça au KeyBank Center. Donc, ça va être à écouter. Vous, on vous laisse une semaine pour vous poser. Pour le reste, après ça, on va avoir un autre épisode post-repêchage et pré-joueur autonome. Là, sûrement le 27, là, ou en tout cas, on verra. Ça devrait être dans ce coin-là. Donc, les gens, écoutez, abonnez-vous, suivez-nous, réseaux sociaux, suivez-nous, plateforme d'écoute, tout ça pour être certain de ne pas manquer le moindre balado. GF, Guillaume, encore une fois, merci et bravo pour votre travail des derniers mois.
Yes, merci, Nick. Salut.
Et chers auditeurs, ben merci aussi à vous d'avoir été à l'écoute. On espère que vous avez aimé cette finale et on se reparle très bientôt.